France Musique.
Bonjour à tous. Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Elle était une voix, l'une des légendes du chant lyrique français. Maddy Mesplé s'est éteinte ce week-end, elle avait 89 ans. Maddy Mesplé est morte dans la ville où elle est née, à Toulouse. Le Capitole était bien sûr le théâtre de son cœur. À 9h moins le quart, nous serons en ligne avec son directeur artistique, Christophe Gristy. Maddy Mesplé aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier. Ce sont les mots du ministre de la Culture, Franck Riester. Tour d'horizon des réactions nombreuses à la disparition de la soprano Coloratour. Ce sera avec Sophie Anastasio, Classique Info, à 9h moins 20. Au conservatoire, en masterclass, en cours particulier, Maddy Mesplé a transmis pendant des années son art. Quels conseils donnait-elle à ses élèves? Nous serons avec l'un d'entre eux, le baryton Jean-Sébastien Bourg. Rendez-vous dans 15 minutes. Et puis, qu'est-ce qui faisait la singularité de Maddy Mesplé? Eh bien, peut-être qu'elle était non seulement une grande chanteuse, mais avant tout une grande musicienne. C'est ce que Richard Martel, le fondateur et rédacteur en chef d'Opéra Magazine, nous dira dans quelques minutes.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique avec Maddy Mesplé et la flûte enchantée. Ça ne vous aura pas échappé, c'est en français que l'on chantait Mozart en 1966. Le second air de La Reine de la Nuit à l'acte 2 de La Flûte Enchantée, Maddy Mesplé avec l'orchestre lyrique de l'ORTF, dirigé par Pierre-Michel Lecomte. Notre premier invité ce matin pour évoquer la soprano toulousaine qui vient de mourir, c'est notre ami Richard Martel, fondateur et rédacteur en chef d'Opéra Magazine. Bonjour Richard.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être avec nous. D'abord, tenez une réaction, si vous voulez bien, ce qu'on vient d'entendre, Mozart en français, la virtuosité, la pyrotechnie colorée dans les aigus, c'est l'une des facettes de l'art de Maddy Mesplé ?
Alors, Mozart en français, non, c'est pas l'une des facettes de l'art de Maddy Mesplé, pour une raison bien simple, c'est qu'elle a beaucoup chanté La Reine de la Nuit. Elle l'a chantée en français, comme toutes les sopranos français et francophones de l'époque, mais elle l'a aussi très souvent chantée dans l'original allemand, et c'est notamment dans l'original allemand qu'elle a fait carrière, puisque c'est un rôle qu'elle a chanté en Italie, qu'elle a chanté aux États-Unis. Ça a été un de ses grands rôles passeport pour sa carrière internationale dans les années 1960.
Mais ces aigus, ces suraigus, c'est l'une des facettes de Maddy Mesplé, malgré tout.
C'est-à-dire, c'est malheureusement, si j'ose dire, la chose à laquelle on a réduit Maddy Mesplé. C'est-à-dire, comme Mado Robin avant elle, puis dont elle a pris directement la succession, c'est qu'elle a été réduite à cette espèce de rossignol mécanique qu'elle n'était pas, en plus. Mais surtout, Maddy Mesplé, c'était tellement plus d'autres choses que des vocalises et de la virtuosité, certes remarquable. C'est pour ça que dans l'Acmé, elle était formidable dans l'air des clochettes, qui était évidemment air fétiche, mais elle était merveilleuse dans tous les passages lents, les passages élégiaques, les passages poétiques, parce que c'était une musicienne infinie. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté la virtuosité, mais il ne faut jamais oublier l'extraordinaire musicienne dont on ne se rend pas forcément compte dans le deuxième air de La Reine de la Nuit.
Elle avait on va s'en rendre compte d'ailleurs pendant toute l'heure, parce qu'on va l'entendre dans bien des registres. En effet, elle avait une formation musicale complète, elle aurait pu devenir pianiste, on va l'entendre dans quelques minutes dans une archive, une émission avec Benoît Dutertre. D'ailleurs, Richard Martet, elle aimait toutes les musiques, elle ne s'est pas enfermée dans un répertoire, elle allait quasiment du quasi-baroque au contemporain, et sans mépriser l'opérette qu'elle a beaucoup enregistrée pour le disque.
Elle aimait toutes les musiques, effectivement, et surtout, elle était extrêmement courageuse. Parce que Maddy Mesplé, la star, l'acmé des années 1960-1970, c'était elle quand même, l'Olympia des Contes d'Hoffmann, très célèbre grâce aux émissions de télévision, aussi on la voyait régulièrement, comme Mado Robin l'est encore avant elle. Maddy Mesplé a accepté d'aborder l'opérette et a réalisé d'enregistrement d'opérette. C'était une époque où dans les théâtres en France, vous aviez une saison d'opérette parallèlement à la saison d'opéra, dont les gens adoraient La Fille de Madame Angot, Les Saltimbanques, Les Mousquetaires au couvent, Véronique, voilà, vous voyez ça. Moi, je le voyais régulièrement pendant mon adolescence. Et Maddy Mesplé a enregistré des disques qui ont été des références absolues. Moi, les premiers souvenirs que j'ai de Maddy Mesplé comme jeune mélomane, j'avais 12-13 ans, c'était quand j'allais chez mon disquaire à Bordeaux, et qu'est-ce que je voyais ? La couverture des Cloches de Corneville avec Maddy Mesplé et Bernard Sinclair, la couverture de Véronique avec Maddy Mesplé et Michel Danx. C'était ça, en fait, l'image de Maddy Mesplé. C'était ça qui était véhiculé. La virtuose, l'opérette, qu'elle a payée très cher, parce que c'était pas une époque, même encore aujourd'hui, où pour un chanteur ou chanteuse français, c'était facile de faire de l'opérette. Vous étiez très vite étiqueté la divette, et pas du tout la diva ni la grande chanteuse. Elle a eu ce courage, ça l'a rendu extrêmement populaire, parce que l'intégrale de Véronique, par exemple, était un énorme succès, surtout qu'il y avait danse avec elle. Mais et puis il y a évidemment tout le répertoire contemporain, la création du Quatuor numéro 2 de Betsy Blas, tout ce qu'elle a pu chanter de Maurice Ohana. Elle a quand même enregistré l'échelle de Jacob de Schoenberg avec Pierre Boulez, quoi. Vous voyez, elle disait elle-même que ça n'avait pas été facile. Elle avait beau avoir une merveilleuse formation musicale, elle a eu du mal au début, mais c'est quand elle a créé l'Élégie pour de jeunes amants, un très bel opéra de Hans Werner Henze, qu'on ne donne jamais. Elle en a fait la création française à Nice, 1965. Et c'est là qu'elle a eu ce contact avec la musique contemporaine, comme on dit. Et là, elle en a bavé, elle le racontait, pour apprendre une musique très différente, évidemment, de l'Acmé, Véronique, La Reine de la Nuit, Gilda dans Rigolette, qui était ses grands rôles. Mais elle y est arrivée. Après, la rencontre avec Boulez a été déterminante. C'est lui qui l'a intégrée dans tout ce milieu de la musique. contemporaine, et du coup, elle en a fait beaucoup.
Merci beaucoup, Richard Marté, fondateur, rédacteur en chef d'Opéra Magazine, qui rendra bien sûr hommage à Maddy Mesplet dans son prochain numéro. Pour finir, je vous ai demandé de choisir Maddy Mesplet dans un air. Richard, qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi ?
J'ai choisi un air de l'Acmé, mais figurez-vous, pas les clochettes, parce que les clochettes, surtout derrière, je ne savais pas, Jean-Baptiste, que vous aviez choisi le deuxième air de la Reine de la Nuit, mais c'était repartir dans la virtuosité. Je voulais donner cette image de Maddy Mesplet, la poétesse, Maddy Mesplet, la musicienne, Maddy Mesplet qui vous prenait aux tripes simplement par cette façon d'interpréter et de saisir le texte. J'ai donc choisi la fin de l'Acmé.
On est en 1968. Merci beaucoup. Merci Richard Marté.
Au revoir Jean-Baptiste.
Tu m'as donné le plus doux rêve à la fin de l'Acmé de Léo Delibes, la voix de Maddy Mesplet, l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Jean-Pierre Marty en 1968.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et jusqu'à 9h, hommage à Maddy Mesplet, il est 8h12, notre premier invité, Richard Martet, le rédacteur en chef d'Opéra Magazine, le disait il y a quelques minutes, Maddy Mesplet était non seulement une immense chanteuse, mais une chanteuse très musicienne, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle a étudié la musique, a suivi une formation musicale complète dans sa ville de Toulouse, où elle est née le 7 mars 1931. Elle a notamment sérieusement étudié le piano. C'est ce qu'elle racontait, Maddy Mesplet, sur France Musique, à Benoît Dutertre à l'occasion de la sortie du coffret anniversaire de ses 80 ans chez EMI, ainsi que son livre La Voix du Corps chez Michel Lafon, où la chanteuse évoquait son long combat contre la maladie de Parkinson. Voici un extrait de cette émission que vous pourrez réécouter samedi prochain à 11h. Maddy Mesplet en 2011 sur France Musique.
Je pensais que j'allais faire une carrière pianistique.
C'est ça.
Et comme j'avais rencontré, je devais avoir 12 ans, 13 ans, je ne sais plus, Lazare Lévy, qui était professeur au conservatoire de Paris. Et il m'avait dit, je vous attends l'année prochaine, j'ai une place, elle est pour vous. Et moi, j'ai cru que c'était tout à fait facile. Alors, je suis arrivée à la maison et j'ai dit à maman, je pars à Paris. Et alors elle m'a expliqué que je n'allais pas partir à Paris parce qu'il n'en était pas question, qu'elle ne pouvait pas parce que nous n'avions pas l'argent nécessaire pour le faire. Mais quand j'y repense avec le recul, si vous voulez, c'était quand même, c'était une époque où je pense que des parents ne se séparaient pas d'un enfant comme oui. ça. Il fallait ou déménager, tout, que toute la famille déménage.
Mais finalement, c'est cette formation pianistique, ça vous a fait beaucoup de bien.
Oh, ça, c'est formidable. Oui. D'abord, rien que le fait de chanter en mesure,
oui.
vous êtes déjà ami avec le chef d'orchestre, qui peut être un ennemi. Bon, mais là, vous êtes déjà ami. Alors, c'est un point gagné. Là.
Ça vous a conduit à d'ailleurs des expériences étonnantes, comme par exemple d'accompagner le tout jeune Christian Ferras à oui. Toulouse, votre ville natale.
Mais ça, je ne suis pas sûre que mon professeur ait eu raison, mais enfin, il paraît que oui. C'était quand même très dur. Qu'est-ce que j'ai eu peur ? C'était affreux.
Et puis ce qu'on découvre aussi dans ce livre, c'est que vous avez eu, au fond, tout de suite, et ça vous a suivi toute votre carrière d'ailleurs, une certaine ouverture d'esprit, curiosité. Vous avez aussi bien joué dans les petits orchestres de danse que passer les concours du conservatoire.
Hein. Oui, c'est peut-être une ouverture d'esprit, mais quand j'ai su que je ne pouvais pas partir à Paris, il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai dit, je vais gagner ma vie comment ?
Oui.
Alors j'ai appris, c'est un ami de maman qui faisait ça déjà, qui m'a appris ce qu'on devait faire, parce que quand on joue des tangos, des slow, on a une musique, bien sûr, on regarde, mais cette musique, elle est écrite pour ceux qui ne savent rien. Ouais. Il faut ajouter quelque chose, il faut faire un accompagnement beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Ouais. Alors ça demande pas mal de travail et pas mal d'idées, si vous voulez. Voilà.
Nous avons fait un bon voyage.
Nous avons fait un bon voyage.
Nous arrêtons à tous les pas.
Nous arrêtons à tous les pas.
Buvons du cidre à chaque village.
Buvons du cidre à chaque village.
Cueillons dans les clos des lilas.
Cueillons dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des dindons enfantiques.
Et la paix prolifique.
Des chapeaux, vieux garçons.
Nous avons rencontré des oies très distinguées,
des poules intriguées et des cœurs de pinceaux.
Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé,
la mercière et son frère, leur sœur et sa sœur.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en linage.
Chacun voudrait en faire autant. Nous avons fait des découvertes.
Nous avons fait des découvertes.
Tous les ruisseaux ont rajeuni.
Tous les ruisseaux ont rajeuni.
Les bois ont mis leur robe verte.
Les bois ont mis leur robe verte.
Et l'on dit que ce n'est pas fini.
Et l'on dit que ce n'est pas fini. Nous avons rencontré des abeilles enfiévrées.
Des cigales inspirées.
Des lézards touchés tôt.
Nous avons rencontré des vaches en robe de bure,
des chèvres en fourrure, des moutons en manteau.
Nous avons rencontré le sacristain et son chien,
la parole et sa bonne, le peu d'eau et son veau.
Nous avons fait des découvertes.
Nous avons fait des découvertes.
On refuse des mondes dans les nids. Les seules roses, c'est offerte. Avec papillon réuni,
nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
C'est le premier jour du printemps.
C'est le premier jour du printemps.
Les oiseaux se mettent en ménage.
Les oiseaux se mettent en ménage.
Tout le monde voudrait en faire autant.
On parlait de l'opérette il y a quelques minutes avec Richard Martin, Reynaldo Hahn, Ciboulette. Nous avons fait un beau voyage, m'a dit Mesplé, en duo avec José Vandamme en 1982, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Cyril Diedrich. Une musique de Reynaldo Hahn dont elle disait, m'a dit Mesplé, qu'elle lui allait droit au cœur. C'est d'ailleurs avec ce compositeur qu'elle a lancé des séries de récitals à l'opéra, ce qui alors ne se faisait guère, voire pas du tout. 8h18, c'est un autre baryton qui est avec nous, Jean-Sébastien Bou. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Bonjour, vous avez été élève de Maddy Mesplé, dont vous étiez proche. D'abord, on vient d'écouter ce duo de Ciboulette avec José Vandamme. Vous-même, est-ce que vous avez, lors de vos cours, chanté en duo avec elle ?
Ah, malheureusement, non. Alors, elle nous donnait beaucoup d'exemples, hein, de temps en temps, et c'était toujours merveilleux de l'entendre. Mais ce qui était formidable avec Maddy Mesplé, c'était que on bénéficiait en même temps des cours classiques de chant, de technique vocale, etc. On bénéficiait de toutes les anecdotes et toutes les histoires qu'elle nous en racontait, de tout ce qui lui était arrivé sur scène, et on avait l'impression de profiter de l'expérience, de sa propre expérience et de tous ses partenaires, parce qu'elle n'oubliait jamais ses partenaires. Elle était, c'était une collègue formidable.
Comment vous l'avez rencontrée?
Alors, bah, c'est extrêmement simple. J'avais deux. Alors, c'est en 1989, ça remonte. Mon père était directeur du conservatoire de Champigny, sur Marne. Et j'avais 2 ans de chant. J'avais toute la formation à l'époque musicale qu'on pouvait nous apporter. J'étais passionné de chant, évidemment, et d'opéra en particulier. Et elle était professeure au CNR de Saint-Maur, qui était à 2 pas. Donc, mon père, un jour, m'a dit, je t'emmène, on va rencontrer Maddy Mesplé. Alors, je dis, d'accord. Et arrivé dans sa classe, c'était une classe tout au très isolée dans le conservatoire, qui est un très grand conservatoire, Saint-Maur. Et donc, je rencontre cette dame, on était tous un peu dans nos petits souliers, quand même. Mon père se met au piano, et je lui chante des choses. Et alors, je me dis, dans sa classe. À la fin, elle commence à me dire beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup de... Parce qu'elle était très stricte et très... On comprenait tout de suite en la rencontrant que quand on allait avoir affaire à elle, si je puis dire, dans les leçons de musique et de chant, il fallait pas s'attendre à... c'était pas pour s'entendre dire ce qu'on avait envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle me dit, je vous prends dans ma classe, il n'y a pas de problème, mais il faut passer tous les concours, etc., etc. Bon, je dis d'accord, on passe les concours. Et elle me prend, c'est là où j'ai commencé un peu à faire la tête, elle me dit, mais je vous prends en classe préparatoire. Alors, quand on est jeune, on est un peu, imbécile, et on se dit, on s'imagine tout savoir. Parce que j'étais ennuyé parce que les classes préparatoires à l'époque, ça signifiait qu'on avait que 20 minutes de cours. Mmh. C'était terrible. Nous, on voulait tout de suite apprendre d'être dans la musique tout de suite, directement, et pas de la technique, etc. D'autant plus qu'elle mettait un point d'honneur au CNR Saint-Maur à ce que tous les élèves puissent avoir accès à la même formation que les instrumentistes. On se retrouvait dans les classes de formation musicale, on avait 18-19 ans avec des gamins de 8-10 ans, c'était amusant. Et donc j'ai passé le concours, elle m'a pris, et puis on a commencé tout un travail, pas à pas, à la base. Mais il fallait qu'elle forme dès le début, il fallait qu'elle comprenne et qu'elle nous fasse comprendre comment fonctionnait ce travail. Qu'il fallait être dévoué à la musique, dévoué au rôle, dévoué au texte. Et puis c'était une extraordinaire chef de chant. C'est-à-dire quand elle se mettait elle-même au piano, c'était... tout était complet. C'était incroyable.
Jean-Sébastien Bout, d'un mot, s'il y avait une leçon que vous avez retenue d'elle, quelque chose qui vous revient régulièrement?
Oui. Que rien n'est jamais acquis, en fait. Que c'est la rigueur et le... La rigueur, il faut jamais s'arrêter de travailler, jamais, 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 parce que quand on s'arrête, non seulement on arrête d'avancer, mais je crois même qu'on recule. Et c'est très étrange parce que elle m'accompagne toujours, même maintenant, et plus que jamais maintenant, parce que je pense avoir la maturité, après 30 ans, évidemment qu'on s'est connu. Certaines choses qu'elle me disait à l'époque prennent leur sens maintenant, seulement maintenant. C'est-à-dire qu'il faut une certaine maturité avant de comprendre tout ce qu'elle nous disait, tout ce qu'elle nous apportait.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Bout, baryton, l'un des élèves de Maddy Mesplé. Merci, je vous propose de l'écouter avec un autre baryton, lui aussi, qui vient de nous quitter. C'est Gabriel Baquier.
Gabriel Baquier, ouais.
Le final de Rigoletto de Verdi. Merci.
Merci.
Je ma fille.
Verdi, la toute fin de Rigoletto en français, Maddy Mesplé, Gabriel Baquier, en 1967 avec un orchestre sans nom dirigé par Jean-Claude Hartmann. Jusqu'à 9h, hommage sur France Musique à Maddy Mesplé. La soprano vient de mourir, elle avait 89 ans. Mais pour l'heure, il est 8h26, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Vous commencez la semaine en nous parlant de la pratique en amateur de la musique. Elle a progressé pendant le confinement.
Oui, en France aujourd'hui, on estime la population d'amateurs musique, danse et théâtre à quelque 12 millions de personnes. Ce sont les chiffres du ministère de la Culture. Parmi eux, il y a environ 9 millions de musiciens amateurs avec des profils très variés. Ça va de celui qui gratte un petit peu de guitare ou qui pianote occasionnellement à l'amateur plus qu'averti au niveau quasi professionnel. La guitare et le piano sont d'ailleurs les instruments les plus joués. Et du côté des pratiques collectives, la chorale est la discipline la plus répandue, bien loin devant le groupe de rock, l'orchestre symphonique et même la fanfare. Et pendant le confinement, on a vu, ô joie, plein de musiciens amateurs ressortir le violon ou la flûte de l'étui, refaire des vocalises ou commander clavier et batterie pour se remettre à la musique chez eux et même continuer une fois le déconfinement amorcé. Et sachez que ceux qui pratiquent la musique en amateur, peut-être vous qui nous écoutez ce matin, vous pouvez compter sur la Maison des pratiques artistiques amateurs, la MPAA, bien connue des amateurs parisiens puisqu'elle est installée dans le 5e arrondissement. La MPAA, elle est particulièrement active sur Facebook depuis 3 mois. On y trouve des concerts en visioconférence, mais aussi des cours en direct, notamment des sessions d'échauffement vocal avec pour le coup des professionnels, des cours de percussion, de théâtre aussi, de danse contemporaine. C'est vraiment une page à suivre si vous êtes amateur et que vous cherchez de quoi vous motiver. Si vous voulez voir comme le niveau des amateurs, tous styles musicaux confondus, est bon, voire très bon, et peut-être cela suscitera-t-il un déclic chez vous. Bravo donc à la MPAA pour son travail. On a grand besoin de ce type d'endroit, bien des musiciens ne poursuivent plus à l'âge adulte la pratique de leur instrument, faute de structures d'accueil suffisantes sur tout le territoire. La pratique musicale amateur a hélas longtemps été dénigrée en France, mais le vent tourne et de plus en plus d'orchestres, d'ensembles et de grandes institutions accompagnent les amateurs dans la musique. Ils doivent absolument être encouragés par les pouvoirs publics.
Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est aussi sur francemusique.fr. À demain Suzanne.
À demain.
extrait de Manon Lescaut d'Aubert, l'orchestre lyrique de l'ORTF, dirigé par Jean-Pierre Marty en 1974, et la voix de Maddy Mesplé.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Maddy Mesplé qui est morte ce week-end dans la ville où elle est née, à Toulouse. Le Capitole était bien sûr le théâtre de son cœur. À 9h moins le quart, nous serons en ligne avec son directeur artistique Christophe Gresty. Maddy Mesplé aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier. Ce sont les mots du ministre de la Culture, Franck Riester. Tour d'horizon des réactions nombreuses à la disparition de la soprano. Ce sera avec Sophie Anastasio dans une dizaine de minutes. Maddy Mesplé, jusqu'à 9h, nous l'entendrons dans le répertoire français d'Offenbach, Erik Satie, jusqu'à même Mouloudji. Mais pour l'heure France Musique, il est 8h31. Le journal avec Olivier Doré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est une colère qui se propage comme une traînée de poudre aux États-Unis. Des milliers de personnes ont encore manifesté hier pour dénoncer la violence des forces de l'ordre après la mort, il y a une semaine, de George Floyd, un homme noir de 46 ans étouffé par un policier blanc dans une rue de Minneapolis. Ce policier, qui a depuis été arrêté et inculpé d'homicide involontaire, doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal à Minneapolis, dans le Minnesota. C'est un reportage de Loïc Loury.
Une semaine après la mort de George Floyd, le slogan est désormais connu. « I can't breathe », »,« Je ne peux plus respirer », c'est ici, sur le bitume, face au magasin Cub Foods, qu'il a répété ces mots. Tiffany écoute les orateurs qui se succèdent à quelques mètres de là.
« Ça rend fou, triste, toutes les émotions possibles. C'est horrible. C'est bien de voir que les gens se rassemblent pour une telle cause. Mais ce serait mieux si quelque chose était fait pour régler le problème. Combien de fois va-t-on devoir vivre ça dans notre pays ?»
Au sol, des centaines de bouquets de fleurs et des mots écrits à la craie, un portrait de George Floyd est peint sur un mur. Kira, née à Minneapolis, est très émue.
Ça m'a détruit, quoi. C'était, j'ai pas les mots. C'est ma ville et je l'aime. C'est mes voisins qui souffrent. Et je veux les aider et des fois, je ne sais pas comment le faire.
Mais le mouvement, né à cet endroit précis, a embrasé des dizaines de villes ces derniers jours. Ivory y voit du positif.
Ça semble différent cette fois, comme si plus de gens en avaient marre, avaient conscience du problème. Ce n'est plus comme si cela concernait une seule communauté. Tout le monde sent cette insécurité. Il y a une urgence d'unité.
Reste à obtenir le changement espéré, à commencer par la vérité, disent les manifestants, et la justice pour George Floyd.
La garde nationale a été déployée dans une quinzaine d'États et des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs villes du pays pour tenter de ramener le calme et éviter les pillages. À Washington, la police a dispersé il y a quelques heures une manifestation près de la Maison-Blanche à coups de gaz lacrymogène. De son côté, Donald Trump s'en est de nouveau pris aux médias, les accusant de fomenter, dit-il, la haine et l'anarchie. Le président américain a également dénoncé les agissements de gauchistes radicaux qu'il dit vouloir combattre au même titre qu'une organisation terroriste. Renault ne fermera pas son usine de Maubeuge, promesse hier de Jean-Dominique Senard, le patron du constructeur automobile, a voulu rassurer les salariés du site après l'annonce d'un plan d'économie qui prévoit en France la suppression de 4600 emplois. Une réunion doit avoir lieu demain à Bercy avec les représentants syndicaux, les élus locaux et la direction du groupe. Une aide de 200 euros pour les étudiants en situation de précarité, elle doit être versée dans les jours qui viennent par le gouvernement. 800 000 jeunes de moins de 25 ans devraient pouvoir en bénéficier. La moitié d'entre eux ont perdu leur travail ou leur stage à cause de la crise sanitaire. Réduire la voilure pour relancer l'activité, parce que cela coûte évidemment très cher à l'État. À partir d'aujourd'hui, les règles qui régissent le chômage partiel évoluent. 8 millions de salariés du secteur privé ont pu en bénéficier dès le début de la période de confinement, l'État remboursant alors l'employeur à hauteur de 100%, une disposition revue à la baisse désormais, Sarah Lemoine.
À partir d'aujourd'hui, l'État réduit sa contribution. Alors que l'activité redémarre, plus question de rembourser à l'employeur 100% de l'indemnité de chômage partiel versée aux salariés. Désormais, ce sera 85%, soit un reste à charge de 15% pour le patron. Toutes les entreprises sont concernées par cette réduction de voilure, sauf celles toujours soumises à des restrictions administratives. Les entreprises du tourisme, de l'événementiel sportif et culturel continuent ainsi de bénéficier d'une prise en charge à 100% jusqu'à fin septembre. Des précisions prévisions sont également attendues cette semaine concernant d'autres secteurs paralysés, comme le transport aérien. Pour les salariés en chômage partiel, en revanche, rien ne change. Ils continuent de toucher 70% de leur salaire brut, soit 84% du net, ou 100% s'ils sont au SMIC. Enfin, les parents dont les enfants ne peuvent être scolarisés à partir du 2 juin continuent de bénéficier du dispositif avec une attestation de l'école.
C'est un soulagement pour les responsables de la SNCF qui affichent des pertes financières records dans une quinzaine de jours. La compagnie pourra vendre autant de billets qu'il y a de place dans ses TGV. Ce retour à la normale s'accompagnera du port du masque obligatoire à l'intérieur des trains. La mort du spécialiste de l'emballage monumental, l'artiste Christo, qui vivait à New York, s'est éteint chez lui à l'âge de 84 ans. Il avait notamment empaqueté à Paris le Pont Neuf, c'était en 1985. Le plasticien avait pour projet d'emballer l'Arc de Triomphe de la capitale française, projet qui verra le jour en septembre prochain, ont précisé des membres de son équipe. Des nuages et des averses sur les Pyrénées et sur le sud de l'Aquitaine. Au fil de la journée, le mauvais temps gagnera les régions proches de la Méditerranée ainsi que l'Auvergne. Il fera beau, en revanche, sur toute la moitié nord du pays. Les températures de 8 à 19 degrés ce matin et de 25 à 30 degrés cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
Eh oui, quand même, hein, 1er juin, c'était le journal d'Olivier Denré. À demain, Olivier.
À demain.
En 1976, Maddy Mesplé est chez elle, à Toulouse, au Capitole, avec l'orchestre du théâtre dirigé par Michel Plasson dans cet extrait de La vie parisienne de Jacques Offenbach. Si vous nous rejoignez, nous rendons hommage ce matin et toute la journée sur France Musique à la soprano qui vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans. Il est 8h40. Voici Classique Info avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Et on rend donc hommage à Maddy Mesplé. Beaucoup d'hommages qui sont rendus ce matin, Sophia.
15 jours après le baryton, Gabriel Baquier, c'est une autre grande voix du Sud qui s'est tue dans sa ville rose natale. La soprano toulousaine Maddy Mesplé s'est éteinte, peut-on lire sur le site du Figaro. Incontournable, elle fut l'une des plus grandes chanteuses lyriques françaises, ajoute Télérama. Et si son pays, et plus précisément son Sud natal, sont très présents dans la presse ce matin, le caractère international de sa carrière l'est tout autant, porté par ses interprétations dans L'Acmé, Lucia di la mer mort, La flûte enchantée ou Les contes d'Hoffmann, avec son timbre altier, précis et lumineux, une perfection vocale doublée d'une présence rare, écrivent les journalistes. Jolas Boulez, le nom de Maddy Mesplé reste également lié à la modernité et aux créations de ses contemporains, rappelle notre journaliste Guillaume de Calf, une musique qu'elle ne jugeait pas plus difficile, mais nécessitant beaucoup de travail.
L'article à retrouver sur francemusique.fr et de nombreuses personnalités lui rendent aujourd'hui également hommage.
À commencer par le Théâtre du Capitole et son directeur artistique Christophe Gristy, qui sera à vos côtés dans quelques instants. Elle avait une voix très cristalline avec des aigus et des suraigus. C'était phénoménal, se souvient-il. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, fait part de sa très grande émotion, tout comme le ministre de la Culture, Franck Riester, et Jean-Philippe Thiellet, directeur du Centre National de la Musique, qui salue une très grande artiste à la voix exceptionnelle. « Vous étiez notre plus doux rêve », écrit l'opéra Grand Avignon, une étoile appartenant à l'âge d'or de l'opéra français pour celui de Marseille. Et ces mots du baryton Ludovic Tézier, Maddy Mesplé s'est envolée, légère comme l'élégance.
Dans l'actualité également, Sophia, l'opéra de Liège et l'orchestre de Strasbourg qui dévoilent leur prochaine saison.
Une saison anniversaire pour l'opéra de Wallonie qui célébrera son bicentenaire. Elle s'ouvrira avec la Mimi d'Angela Georgiou dans une bohème dirigée par Frédéric Chasselin. À noter également la première liégeoise d'Hamlet d'Ambroise Thomas, une soirée de gala en novembre pour fêter les 200 ans de l'institution avec la Traviata. À Strasbourg, l'orchestre philharmonique proposera entre autres un voyage autour des bandes originales des films de Miyazaki et la poursuite de son cycle Malheur avec le Chant de la Terre interprété par Marianne Crébassa et Andreas Schager.
Et puis à Vienne, un hôtel a transformé ses chambres en loge d'opéra et sa cour en scène de concert.
L'hôtel Zeitgeist a invité deux chanteuses lyriques et un ensemble de cordes à se produire dans sa cour intérieure. Leur public, les spectateurs aux fenêtres d'une quarantaine de chambres louées pour cette représentation. Les réservations ont été complètes en 3 jours, assure le directeur, dans une ville encore réduite au silence.
Classique Info, Sophia Anastasio. À demain, Sophia.
À demain.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Voici à présent une rareté, elle a été éditée en 2011 sur le beau coffret de 4 disques pour les 80 ans de Maddy Mesplé. C'est une archive de l'INA de 1969, accompagnée par Léo Chauliac au piano. Maddy Mesplé interprète et comment cette belle chanson de Mouloudji.
Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, c'est devant l'heure qui garde le bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de bruit. Un aveugle jour de langue de barbarie, cet air sera pour nous le plus beau, le plus joli. Toi tu m'inviteras, ma taille tu prendras, nous danserons tranquilles loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main par les rues nous irons.
Madi Mesplet interprète la chanson française « Un jour tu verras » de Mouloudji en 1969 avec Léo Chauliac au piano. Et pour refermer ce Musique Matin spécial hommage à Madi Mesplet, eh bien nous partons là où elle est née en 1931, là où elle s'est éteinte ce week-end, à Toulouse. Bonjour Christophe Gristy, directeur artistique du Capitole de Toulouse.
Bonjour Jean-Baptiste.
Le Capitole, c'était sa maison, la maison de Madi Mesplet. D'ailleurs, elle habitait juste à côté.
Oui, elle habitait tout près. Évidemment, tant qu'elle a pu venir voir les représentations, donc moi je l'ai beaucoup croisée du temps de Nicolas Joël, parce qu'elle était à toutes les générales, elle était au spectacle, à tous les concerts. Je l'ai beaucoup vue à cette époque, toujours évidemment d'une élégance suprême. Et puis c'est sa maison parce que elle a appris le chant avec la, donc quand elle avait 18 ans, avec l'épouse du directeur d'alors, Louis Izard. Donc l'épouse de Louis Izard était professeure au conservatoire et c'est avec elle qu'elle a appris le chant. Et hier j'en parlais avec Marie-Thérèse Izard, la fille de Louis Izard, qui a connu Madi à 17 ans.
Voilà, elle a beaucoup
chanté. C'est vraiment une fille du Capitole, c'est clair.
Elle y a beaucoup chanté ensuite tout au long de sa carrière. Elle tenait à continuer à chanter à Toulouse au Capitole.
Oui, elle y a chanté tous ses grands rôles. Après, elle avait une carrière internationale, donc elle a enregistré évidemment les Offenbach avec Michel Plasson, qui sont des enregistrements très très importants hein, dans la discographie d'Offenbach. Et voilà, c'était évidemment toulousaine, etc. Mais il faut rappeler tout le temps la dimension complètement internationale de la carrière.
Et puis d'ailleurs, elle était connue de tous les Toulousains, enfin des Toulousains, y compris ceux qui ne sont pas du tout amateurs d'art lyrique et de classique. C'était une figure populaire de Toulouse.
Oui, absolument. Et on peut dire que là, d'ailleurs, par la télévision, c'était une des cantatrices françaises les plus populaires, parce qu'elle elle s'est beaucoup produite à la télévision, dans différents répertoires. Et bon, moi, je ne suis pas Toulousain, mais quand j'étais... entre le Grand Échiquier, Jacques Martin, etc., c'est vrai que Madi Mesplet était très très présente à la télévision, ce qui n'était pas fréquent non plus à l'époque.
Christophe Gristy, qu'est-ce qui vous touche? Vous, on l'écoute depuis 8 heures, on l'a beaucoup écouté, entendu hier, bien sûr. Qu'est-ce qui vous touche dans l'art du chant de Madi Mesplet?
La sensibilité frémissante, comme on vient de l'entendre, là, c'est merveilleux ce que vous dites.
C'est rare hein, qu'une chanteuse lyrique chante comme ça sans aucun effet.
Oui, avec un tel charme et une sensibilité, une mélancolie, et l'élégance suprême. Ça vraiment, la dernière fois que j'ai vu Madi Mesplet, c'était au mois de novembre, quand en fait Nicolas Sarkozy était venu lui à sa demande, était venu lui remettre la Grand Croix de l'Ordre du Mérite, et on sait qu'elle était très malade, etc. Et l'élégance de cette femme, c'était bouleversant, vraiment. Et la dignité, c'est un dernier souvenir merveilleux que j'ai d'elle, parce que elle était extraordinaire ce jour-là. Son élégance était une leçon de vie, alors qu'on sait qu'elle était vraiment très 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 diminuée. Et donc ce qui me touche aussi, c'est ce que j'aime c'est cette soif de musique. Ça, je me souviendrai toujours quand elle venait au théâtre. D'abord, j'ai des souvenirs très drôles parce qu'elle faisait la police autour d'elle. Elle ne supportait pas le moindre bruit des spectateurs qui pouvaient entendre les représentations. Je me souviens, elle était outrée dès que quelqu'un toussait, dès que quelqu'un bougeait, ouvrait un bonbon. Elle avait vraiment ce culte de la musique. Pour elle, la musique était une chose vraiment sacrée. Ça, c'était extraordinaire. Je me souviens, un soir, elle était venue entendre le livre italien de Wolf. C'était sur les Isokoski et Scovus, et à un moment je lui parle à la fin du concert, elle me dit quand même c'est la plus belle musique du monde, il n'y a pas plus beau que cette musique là donc ça c'était merveilleux, cette grande culture. On sait que c'était une technicienne, qu'elle avait beaucoup travaillé la musique, et cette grande culture, cette ouverture d'esprit hein, de l'opérette justement à Betsy Jolas. Ça, c'est, je trouve, exemplaire et magnifique, et ça doit être un modèle.
Pour vous, c'est quoi ses plus grands rôles?
Ça, je ne serais pas très original pour les rôles d'opéra. Bon, c'est vrai, par exemple, j'aime beaucoup l'Acmé, évidemment, Lucia. Mais j'aime beaucoup sa verbinette avec Crespin. Bon, on a le document d'Aix-en-Provence, c'est magnifique d'entendre ces deux déesses du chant dans cette œuvre géniale de Strauss. Et après, je suis très attaché à tous les enregistrements de mélodie qu'elle a pu faire. Quand même, elle a participé à l'intégrale des mélodies de Roussel, hein, ce qui n'est pas non plus la chose la plus courante. Poulenc, évidemment, Reynaldo Hahn. Dans ce répertoire, elle est absolument merveilleuse. Là, on voit évidemment la grande musicienne.
Christophe Gristy, directeur artistique du Capitole de Toulouse. Pour finir, je vous ai demandé de choisir Maddy Mesplé sur un disque et sur une plage. Qu'avez-vous choisi et pourquoi ?
Alors, j'ai choisi la valse divine de Satie, Je te veux, justement pour illustrer ce pan de la discographie et de la carrière de Maddy Mesplé. Donc, cette mélodiste sensible, raffinée, avec évidemment ce français absolument sublime. Et puis là, c'est Ciccolini au piano. Bah, donc, ils font ça comme si c'était les créateurs, évidemment, comme s'ils étaient les créateurs de l'œuvre.
Merci beaucoup, Christophe Gristy, directeur artistique du Théâtre du Capitole de Toulouse. Maddy Mesplé, la grande soprano toulousaine. Maddy Mesplé s'est éteinte, c'est en une de la Dépêche du Midi ce matin. Maddy Mesplé en 1986, Je te veux, Eric Satie, avec Aldo Ciccolini.
Oh.
Maddy Mesplet, Aldo Ciccolini au piano en 1986, Je te veux, Eric Satie. L'hommage à Maddy Mesplet qui se poursuit toute la journée sur France Musique et notamment une heure de musique à 15h dans Relax avec Lionel Esparza. Et puis, ne ratez pas, samedi à 11h, Étonnez-moi Benoît avec une rencontre entre la chanteuse et Benoît Dutertre qui date de 2011. Voilà, c'est la fin de Musique Matin. Emmanuel Morse-Duncan et Emmanuel Dupuis étaient à la technique. Yacine Bouzard à la réalisation. Marion Guillemet avec Taïsia Froidur et Margot Muller à la coordination. Un grand merci à Richard Martet d'Opéra Magazine pour son aide précieuse. Demain, notre invité sera la metteuse en scène Julie Deliquet. Et les voici, les voilà. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier, un nouveau mois. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Un mois qui s'ouvre avec une très belle violoniste qui s'appelle Shushan Cyrano-Sion.
Ah oui.
Et qui joue la musique de Tartini. C'est pas la première fois qu'on entend cette musicienne. Là, vous allez entendre qu'elle atteint des sommets. Donc, c'est dans quelques minutes.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.